Alors, je vous propose aujourd'hui de revenir sur un texte qui s'intitule, que j'ai intitulé « Mystère de l'usine », qui fait partie du journal d'usine que vous trouvez dans l'édition au programme, page 179-181. Et je dis « j'y reviens » parce qu'au fond, c'est un texte qui m'intrigue beaucoup, dont j'ai déjà pu parler avec les étudiants et les étudiantes à l'occasion du cours sur la condition ouvrière. Et pourquoi il m'intrigue ? Parce que j'y trouve un des lieux où finalement le jeu de continuité et de rupture entre Simone Veil et Alain est vraiment très marqué. Donc le texte paraît très simple à première lecture et en réalité il soulève de redoutables difficultés. Donc je ne suis pas du tout spécialiste de Simone Veil, je suis sans doute le moins spécialiste de Simone Veil de la journée, mais d'où cette tendance à lire souvent Simone Veil depuis Alain, depuis les questions qu'elle pose contre Alain ou avec Alain. Alors, si on s'arrête sur ce texte, Le mystère de l'usine, il s'agit d'un plan pour un projet d'étude suivi par des notes qui témoignent chez Simone Veil d'un effort de remémoration ou de ressaisie de son expérience en usine, un moment de récapitulation, ce qui montre bien une dynamique propre au journal d'usine. On passe d'une approche descriptive du travail en usine, où il s'agit de collecter un certain nombre d'impressions, on fait une collection d'impressions, vers de multiples tentatives de ressaisie ou de théorisation de l'expérience vécue, y compris dans les difficultés de cette ressaisie, avec cette idée qu'au fond, le malheur, c'est justement l'impossibilité de passer à une vue synthétique de cette collection, de cette dispersion d'impressions qui fait l'expérience du malheur. Le titre, Le mystère de l'usine, rend compte de l'orientation de cette théorisation, de cette ressaisie. Il s'agit de passer d'une vue analytique de l'usine, comme addition de moyens de production, à une compréhension synthétique de l'usine, à partir d'une expérience unifiée de l'usine, qui est ici expérience d'un mystère. Le texte comprend trois moments, trois paragraphes, qui permet au fond de diffracter le mystère de l'usine en trois mystères différents, le mystère de la machine, le mystère de la fabrication, enfin le mystère du tour de main. C'est-à-dire, au fond, ce qui définit une usine, ce qu'on y trouve des machines, la fin d'une usine, la fabrication, et le type d'action qu'elle met en jeu, quel geste elle met en jeu. Pourtant, au fond, cet ordre est assez étonnant. On pourrait s'attendre à passer du geste à la machine, puis à la fabrication. On passerait ici d'un plan très serré sur l'activité de l'ouvrier vers une forme de plan large sur l'usine dans sa globalité, ou partir, à l'inverse, d'un plan plus large, la fabrication, pour serrer de plus en plus vers le geste de l'ouvrier. Il y a au fond une forme de rupture, hein, puisqu'on passe de la machine à la fabrication, et ensuite on revient au tour de main. Et donc c'est cet ordre étonnant que je voudrais interroger ici. Le titre, enfin, prend la forme d'un oxymore, puisqu'au fond, rien ne semble moins mystérieux qu'une usine. L'usine semble relever du domaine du prosaïque. Une usine est un bâtiment ou un groupe de bâtiments accueillant des machines et des installations, des matières, des fournitures et du personnel qui concourent à une activité de production. Ce qui définit en propre l'usine dans la société industrielle, c'est à la fois la concentration des moyens de production, contrairement au monde de l'atelier ou du petit artisan, et c'est d'autre part la mécanisation. Le mystère renvoie à ce qui est secret, à ce qui semble irréel, étrange, inquiétant, ce qui n'a pas ou ne semble pas avoir d'explication. On voit bien que la notion peut être prise entre deux sens, hein. D'un côté, un sens fort, il y aurait du mystérieux en soi dans l'usine, quelque chose de l'ordre de l'inexplicable, et un sens faible du mot mystère. Le mystère peut être dissous en droit quand il ne l'est pas en fait. Il n'y a pas d'inexplicable, mais un inexpliqué de l'usine dont il s'agit de rendre compte. Et au fond, le mystère serait simplement le corrélat d'une ignorance de ce qui se passe dans l'usine. D'où deux questions pour orienter notre lecture. En quel sens peut-on dire de l'usine qu'elle est un mystère ? Donc, plutôt sens fort, plutôt sens faible. Et pour qui est-elle un mystère ? On va voir dans le texte déployé toute une réflexion sur le point de vue de l'usine. Donc je débute par le premier paragraphe, le mystère de la machine. L'ouverture du paragraphe est en elle-même intéressante. Elle cite Robert Guilleneuf et se fait l'écho d'un entretien que Simone Veil a pu avoir avec lui le 16 mars. La biographie de Robert Guilleneuf est rappelée un peu plus tard dans le journal d'usine, page 191-192. Cette mention n'est pas accidentelle. Elle dit déjà quelque chose de la position d'où émane le mystère de l'usine. En effet, on pourrait dire que le mystère n'apparaît en tant que mystère que pour celui qui l'a déjà dépassé, qui est dans la position qui lui permet de voir que l'usine est un mystère. On se trouve là, dans une position intermédiaire, entre la position d'extériorité, de celui qui voit l'usine du dehors, le bourgeois qui ne voit de l'usine que ce qu'il veut bien y voir, ou l'intellectuel qui voudrait décrire de l'extérieur le travail en usine, et de l'autre, une position d'intériorité telle qu'au fond, toute compréhension de l'usine pour elle-même est mise en échec. Ici, ce serait l'ouvrier non qualifié, tellement absorbé, opprimé dans son travail, qu'il ne peut penser l'usine en tant que mystère. Il est celui qui vit proprement l'usine comme un mystère, parce qu'il ne peut pas la penser en tant que mystère. Ici, Guilleneuf est donc considéré comme un ouvrier qui pense, non seulement en dehors du travail, dans ses temps de loisirs, mais aussi dans son travail, qui pense son travail. On est très loin d'une idéalisation de l'ouvrier qualifié. Hein. Dans le portrait que Simone Veil en donne ensuite, elle insiste bien sur la fatigue et l'abrutissement de Guilleneuf. Mais elle montre bien que c'est cette position de l'ouvrier qualifié qui pense son travail qui permet de dénoncer ce qu'il y a de mystérieux dans l'usine. Au fond, Guilleneuf a une compréhension mécaniste de la machine. Il peut la penser comme une œuvre proprement humaine, orientée en vue de certaines fins. Il l'aperçoit comme un équilibre de force. C'est ce qui le distingue de l'ouvrier non qualifié, qui se tient dans un rapport d'adversité à la machine parce qu'il ne la comprend pas en termes mécanistes. D'où une série d'oppositions qui apparaissent dans ce premier paragraphe entre le point de vue de l'ouvrier qualifié et le point de vue du manœuvre de l'ouvrier non qualifié qui ne comprend pas la machine pour ce qu'elle est, une œuvre susceptible d'être comprise mécaniquement. Donc on a d'un côté l'idée d'une compréhension de la machine, c'est-à-dire une capacité à décomposer le mouvement, d'en penser la matérialité, là où au contraire, l'ouvrier dans l'usine se tient dans une position de respect à l'égard de la machine. Ici, le respect renvoie à l'idée d'une crainte, d'une étrangeté de la machine qui impose une distance par elle-même. Donc on est d'un côté dans une décomposition du mouvement de la machine, de l'autre, la machine est saisie comme un tout indécomposable. Cette façon de percevoir et de comprendre la machine a des conséquences très pratiques. L'ouvrier qualifié est capable d'une manipulation adéquate de la machine. Je cite, hein, pour Guilleneuf, c'est une coupe, simplement, il y va carrément. Donc il est capable d'utiliser la machine à son maximum d'efficacité dans une manipulation adéquate de ses pièces, notamment. Au contraire, l'ouvrier, quant à lui, est plutôt dans un rapport de superstition à l'égard de la machine. Il agit au hasard, ne sachant pas toujours comment bien utiliser la machine, de façon irrationnelle. Cette irrationalité étant pensée ici comme une sorte de confusion entre le monde des signes et la nécessité, comme si la machine avait une personnalité, comme si on pouvait l'émouvoir, comme si on pouvait l'inquiéter, autant qu'elle nous inquiète. Enfin, la série d'oppositions se clôt par un rapport au temps. Et l'intervention précédente a bien montré en quoi, chez Simone Veil, la conception de l'oppression passe par une méditation du travail comme rapport au temps. L'ouvrier qualifié peut prévoir, anticiper les actions de la machine, y compris ses ratés, y compris les réparations. Là, au contraire, un ouvrier qui manipule la machine sans la comprendre est pris dans un rapport au temps marqué par l'imprévisible. Marqué par conséquent par une forme de précarité. En quel sens y a-t-il ici un mystère de la machine ? Il me semble qu'il y a une continuité très forte, de ce point de vue, ici, entre la pensée d'Alain telle qu'elle se déploie dans les entretiens au bord de la mer, un texte de 1931, et celle de Simone Weil ici. Le mystère consiste à attribuer des qualités occultes aux choses, si bien que toute description du réel pour ce qu'il est devient impossible. Le réel devient un mystère. Pour Alain, comme pour Simone Weil, l'existence se tient dans une zone intermédiaire et trouble entre servitude totale et liberté totale, en termes plus aliniens, entre sommeil et éveil, de telle sorte que la confusion entre ce qui relève des idées de l'entendement et ce qui relève de l'existence, de l'événement, devient possible. Dans les entretiens au bord de la mer, une des formes que prend cette confusion, c'est la croyance en l'idée de qualités occultes, ce qu'Alain appelle les qualités occultes. Je cite Alain, « La loi d'entendement, c'est la négation d'un changement qui ne résulterait point des circonstances extérieures. » C'est page 1334 dans l'édition en Pléiade. À l'inverse, une qualité occulte est une qualité prise hors d'une situation déterminée. Une qualité isolée des relations de causalité qui la rendent pourtant possible. De telle sorte que l'ouvrier, ici, pense une inhérence de la qualité à un objet sans saisir les relations qui sont à l'origine de cette qualité. Donc on voit en quoi on passe d'une incompréhension de la nécessité à la constitution d'un mystère du fait de cette ignorance de la nécessité. C'est très intéressant de voir que dans les entretiens au bord de la mer, Alain insiste aussi sur le rapport au temps. La confusion entre ce qui relève de l'entendement et ce qui relève de l'événement conduit au fatalisme. Dans les définitions, Alain définit le fatalisme de la façon suivante. Le fatalisme est dialectique, c'est-à-dire qu'il suppose que les nécessités logiques ou de langage sont des nécessités des choses. Et au fond, le mystère de l'usine, le mystère de la machine, vient au fond de cette confusion entre ce qui relève de l'idée et ce qui relève des choses. Donc, tout comme chez Alain, le sentiment du mystère est associé par Weil aux réactions physiologiques du corps, souvent étrangères à la pensée. C'est parce que le corps de l'ouvrier réagit à la machine sans que l'ouvrier ne comprenne précisément ce qui se joue en lui, qui les conduit à, au fond, attribuer une personnalité inquiétante à la machine. De la même façon que chez Alain, on invente l'inconscient en réaction à des réactions du corps qu'on ne comprend pas. Je me mets à trembler, je ne comprends pas les mécanismes du tremblement, donc c'est un Dieu qui me possède et qui m'empêche d'attaquer. Mais le sentiment du mystère est aussi associé à la vie sociale, qui est toujours faite de mystères, de qualités occultes, de mythes, d'idoles et de monstres. Et là, c'est très intéressant, le mystère de l'usine, tout à la fois le mystère de l'ouvrier face à la machine, débordé par une machine qu'il ne maîtrise pas, mais aussi mystère pour ceux qui sont dans un rapport d'extériorité à l'usine et qui ne la voient que de l'extérieur. Dans les réflexions sur les causes de l'oppression de la liberté, Simone Weil avait déjà montré, au fond, en quoi les ouvriers mystifiaient la position du bourgeois en donnant une formule inquiétante, mais en retour, en quoi les milieux les plus bourgeois ou politiciens qui ne connaissent pas l'usine, eux aussi ont une conception caricaturale, mystifiée de l'activité en usine. Donc on retrouve vraiment la question des points de vue. L'usine est mystère pour l'ouvrier débordé par la machine, mais aussi pour celui qui se tient dans un rapport d'extériorité complète à la machine. Pourtant, ici, Simone Weil va déjà un peu plus loin qu'Alain, en insistant, en montrant que le mystère de la machine n'est pas qu'une question d'ignorance. Ce n'est pas simplement la machine n'est pas mystère en tant que facteur inconnu, c'est la fin du paragraphe du mystère de la machine, mais en soi, en quelque sorte. Donc on voit bien qu'on essaie d'aller plus loin de l'ignorance et nécessité vers un mystère beaucoup plus fort. L'anecdote finale qui met en scène une forme de face-à-face, la presse qui ne marchait pas et Jaco, est à ce titre significative. On voit bien qu'au fond, Jaco a une certaine connaissance de la machine, mais ça ne l'empêche pas pour autant de vivre la machine comme un mystère. Le « et » est très intéressant, on voit bien le face-à-face. D'un côté, la machine qui ne marche pas, qui ne veut pas marcher, et de l'autre, Jaco qui s'énerve. La formule « comme un refus » de la machine est très intéressante, parce qu'on voit bien en quoi on est dans l'attribution d'une qualité occulte. On attribue une personnalité, une volonté, à une œuvre pourtant humaine qui n'en dispose pas. Donc il y a dans le mystère de l'usine quelque chose comme une adversité non surmontée et imaginaire. Simone Weil accentue cette dimension sociale du mystère. Elle l'appuie dessus beaucoup plus qu'Alain. Dans une lettre du 28 juin 1935, montre bien qu'en quoi, chez Alain, il y a une vue superficielle et primaire du machinisme, de telle sorte qu'il me semble que c'est avec le deuxième mystère, le passage du mystère de la machine à celui de la fabrication, qu'on comprend en quoi il faut aller plus loin que la simple attribution de qualités occultes. Le mystère de la fabrication, donc, deuxième paragraphe, c'est l'ignorance du processus de travail dans sa globalité, ignorance du processus de travail et de ses fins, ignorance liée à la parcellisation des tâches et à la décomposition de l'activité de travail en gestes élémentaires. Ce qui est problématique au fond dans la fabrication, c'est que l'ouvrier ne perçoit pas le rapport des causes et des effets dans le travail. C'est un comble, car au fond, c'est ce rapport de cause à effet seul qui permettrait de dissoudre le mystère. Il y a donc ici comme une résistance du mystère qu'Alain n'avait pas suffisamment exploré. D'où une situation paradoxale. Rien n'est moins instructif qu'une machine, alors que rien ne pourrait être plus instructif qu'une machine. C'est le sens des points de suspension qui viennent clore ce paragraphe. Au fond, le rapport à la machine pourrait nous apprendre beaucoup de choses, de la nécessité, du geste humain, et finalement, la machine nous empêche de mieux comprendre la nécessité. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas comprendre la machine simplement comme œuvre humaine, mais qu'elle est à comprendre dans un dispositif plus large, qui est celui de la société industrielle, de la fabrication et par suite de l'usine. Donc on pourrait dire ici, on voit la distinction entre Alain et Weil. Chez Alain, la machine est pensée en fond à la façon de l'outil. Là où Simone Weil veut faire un pas de plus, on ne peut pas penser la machine indépendamment d'une structure sociale qui lui donne sens. De ce point de vue-là, on peut s'appuyer sur la thèse de Xavier Roth sur Georges Canguilhem. Georges Canguilhem et l'école française de l'activité, jugée agir, c'est une thèse soutenue en 2010, pour montrer qu'il y a dans la compréhension de l'usine de Simone Weil deux aspects qui renvoient au fond à deux caractéristiques du taylorisme. Premier aspect, c'est la parcellisation des tâches, qui suppose la décomposition de l'activité de travail en gestes élémentaires. Donc on est dans une approche analytique du travail contre la conception synthétique du travail que défend Simone Weil. Cette parcellisation des tâches repose sur le chronométrage de l'action, de telle sorte que l'ouvrier est prisonnier de la tâche qui l'isole du reste de la chaîne de fabrication. Il est pris dans cette urgence sans cesse reconduite de faire la tâche qui lui est confiée, dans une forme de précarité, non maîtrise de son temps, qui l'empêche d'avoir une vue synthétique de la machine et de l'usine comme structure sociale. Deuxième caractéristique forte, et qui au fond va nous amener au troisième mystère, c'est l'idée d'une dichotomie qu'on trouve dans le taylorisme et dans les usines, entre la conception du travail et l'exécution du travail. Au fond, un écart entre travail intellectuel et travail manuel. Il y a chez Taylor une volonté de substituer la science à l'empirisme du geste ouvrier. Comme si, au fond, l'activité ouvrière n'était que le simple prolongement de la connaissance objective. On pourrait connaître d'abord le travail pour ensuite l'effectuer ou l'appliquer. Il y aurait, au fond, ce que Xavier Roth appelle une convertibilité intégrale de la connaissance en action. Cette convertibilité intégrale de la connaissance en action conduit immanquablement à une neutralisation de l'activité par laquelle l'ouvrier reconfigure toujours in situ les prescriptions des bureaux des méthodes, des ingénieurs. C'est précisément ce que Simone Weil va appeler ensuite le tour de main, le mystère du tour de main. L'activité ouvrière n'est pas le simple prolongement de la connaissance objective. Elle ne peut pas être la simple application d'un protocole, une simple exécution d'une consigne qui lui serait préalable. Il y a un écart permanent entre le travail prescrit, tel qu'on le demande à l'ouvrier, tel qu'on l'exige de l'ouvrier, et le travail réel, tel qu'il est concrètement, empiriquement effectué par l'ouvrier. Dès lors, l'ouvrier est placé dans une situation où il a à conquérir une forme d'habileté manuelle qui passe, certes, par une décomposition du mouvement, mais qui ne s'y réduit pas. L'habileté désigne ici une qualité de finesse, d'adresse, dans le choix des moyens pour arriver à une fin, ce qui suppose une maîtrise de son corps. Une maîtrise du corps qui n'est pas permise à l'ouvrier, justement parce que la machine est prise dans un système industriel qui est orienté vers la production et non vers la réalisation du travailleur dans son travail. L'ouvrier devrait, au fond, maîtriser son corps de telle sorte qu'il ne fait que ce qu'il veut faire, contre les réactions intempestives du corps, les tembrements, les hésitations. Ce que Simone Weil, ici, décrit de la façon suivante, que chaque main ne fasse qu'une opération simple. Cette maîtrise du corps, ne faire que ce que l'on veut, c'est ce qu'Alain appelle parfois la politesse. Pour lui, la politesse, c'est cette capacité à ne faire rien d'autre que ce qu'on veut. Dès lors, on voit bien comment se reconfigurent les différents mystères mis en évidence dans ce texte. On peut opposer les paragraphes 2 et 3. Dans le paragraphe 2, c'est la parcellisation des tâches qui crée le mystère. L'ouvrier est mis dans une situation où il ne peut penser que son geste, il est pris dans une urgence qui l'empêche de voir la totalité du processus de fabrication. Dans le paragraphe 3, au contraire, c'est l'impossibilité de cette parcellisation qui crée un mystère, dans la capacité à simplement appliquer une consigne, mais dans la nécessité d'acquérir une habileté. Mais ça ouvre aussi une nouvelle forme de relecture de l'extrait, au sens où les paragraphes 1 et 2 peuvent être rapprochés. Le mystère de l'usine, dans le paragraphe 1, paragraphe 2, rend compte de l'oppression au cœur du travail ouvrier dans une société industrielle. Et on trouve dans ces deux premiers paragraphes des motifs qui seront redéployés dans le reste du recueil, sur le rapport à la machine, le manque de connaissances vis-à-vis du processus complet de fabrication. À l'inverse, le paragraphe 3, lui, met en jeu un mystère de l'usine plus positif, dans la mesure où il renvoie à ce qu'il y a de libérateur dans le travail, dans l'idée que le geste ouvrier peut être la rencontre de la pensée et de l'acte. Donc ici, mystère très étonnant, en double, en tant qu'il dit à la fois le processus de mystification à l'œuvre dans l'usine, du fait des orientations de la société industrielle, mais qui dit aussi en quoi le travail ouvrier peut être en lui-même libérateur. Et ici, c'est la question de l'habileté, du rapport de la pensée et du geste. Pour conclure, je voudrais faire ici trois remarques. Première, qu'est-ce donc que le mystère de l'usine ? On pourrait dire que c'est un mystère composite qui tient tout à la fois de l'impossibilité d'avoir une vue claire de la nécessité, qu'il s'agisse du fonctionnement d'une machine ou du processus entier de fabrication, dans la difficulté de maîtriser son corps et dans le fait que l'usine est marquée par une forte conflictualité sociale. Et c'est ici, à mon avis, qu'on voit des dissonances à l'égard d'Alain. L'exploration de ce mystère ou sa dissolution nous donne accès à la spécificité du travail en usine, qui comporte le risque d'une négativité absolue dans l'oppression, dans la servitude, mais aussi la possibilité d'échapper à ce risque et donc nous ouvre à une dimension libératrice du travail. Deuxième remarque. L'usine est un mystère en tant que bâtiment. Et l'imaginaire qui va avec risque de voiler ce qui se joue à l'intérieur. Au fond, l'imaginaire de l'usine, de l'ouvrier au travail, fait obstacle à une compréhension adéquate de ce qui se joue dans les usines. Dès lors, l'usine, comme la machine, ne sont pas à penser comme un lieu neutre, mais d'abord comme un corps social qui a ses règles et ses normes, ses savoir-faire, mais aussi ses discordances, ses contradictions, ses absurdités. Donc en ce sens, l'usine n'est pas simplement un espace de travail. On ne peut pas réduire l'usine à un atelier. La machine n'est pas simplement une œuvre humaine, elle est aussi prise par des normes qui échappent ici à l'œuvre. L'usine est un théâtre de relations sociales, pour reprendre une formule de Michel Perrot, dans son article « De la manufacture à l'usine en miettes », paru dans la revue Le Mouvement Social en 1983. Et donc c'est, à mon avis, ici que se joue l'écart avec Alain, un accord sur la notion de qualité occulte, sur l'idée d'un travail qui puisse être finalement le lieu de rencontre entre la pensée et l'acte, mais un approfondissement de ce qu'est le machinisme à partir de la question sociale. Troisième point, troisième et dernier point de ma conclusion, il me semble que dans cet extrait, le mystère a seulement un sens faible. Au fond, il peut être dissous, soit par la critique sociale, qui rend compte de ce qu'est l'usine, de ce qu'est la machine, de ce qu'elles sont pour elles-mêmes, soit par l'action elle-même, dans la conquête d'une habileté. Pourtant, on l'a vu, Simone Weil insiste sur une résistance du mystère. On n'est pas simplement dans la question du sommeil et de l'éveil comme chez Alain, où finalement un appel à la conscience suffirait à dissoudre le mystère. En ce sens, Simone Weil ne renonce pas à la notion de mystère au sens fort, elle la réserve finalement à d'autres expériences qui seront elles aussi cruciales pour comprendre la condition ouvrière, et c'est ce qu'elle indique notamment dans L'Enracinement, c'est page 270 de l'édition Carto. Il y a trois mystères ici-bas, trois choses incompréhensibles, la beauté, la justice et la vérité. Je vous remercie pour votre attention.